Autre radio, autre culture, bonjour, émission également diffusée sur audiopeople.fr. Aujourd'hui, nous avons la visite de Thomas Bangalter, qui est représentant du groupe Daft Punk. Bonjour, oui, Thomas.
Bonjour.
Avec son coéquipier qui est Guy Manuel
de Homem Christo.
Vous êtes deux dans ce groupe, uniquement deux.
Oui, uniquement deux, exactement.
Vous êtes des amis d'enfance ?
On est des amis d'enfance. On s'est rencontrés au collège à 12 ans, dans les années 80, en quatrième. Donc ça fait 22-23 ans maintenant qu'on se connaît.
Et nous avons également Christophe Bouillot qui va nous parler technique avec Thomas.
Oui, je vais essayer.
Bonjour Christophe.
Bonjour.
Alors cette genèse du projet Daft Punk, comment est-il venu ?
Disons que on s'est rencontrés en 87 en quatrième au collège à Paris et on a commencé à devenir très amis. Et plusieurs années plus tard, peut-être plus vers 17-18 ans, on a essayé de faire un groupe de rock comme tous les lycéens. Ou comme beaucoup de lycéens ont essayé de le faire peut-être on a sorti un petit EP sur un label anglais d'un groupe qui s'appelait Stereolab qui nous a aidés, qui nous a sorti ce EP et on a eu de très mauvaises critiques dont une dans le magazine anglais hebdomadaire Melody Maker qui a traité notre groupe qui s'appelait Darlene à l'époque de punk débile et de punk stupide et donc en anglais Daft Punk et un an ou deux ans après, quand on a commencé à faire de la musique électronique et de remplacer les guitares, peut-être pas les guitares, mais peut-être remplacer la batterie par des boîtes à rythme et les guitares par des échantillonneurs et des synthétiseurs, on n'avait pas de nom pour notre projet. On allait sortir un petit maxi sur un label écossais et on s'est dit tiens, on va utiliser le nom de cette mauvaise critique, les punks débiles en anglais ou les punks stupides.
Finalement, les critiques de journaux n'ont pas d'emprise sur vous ?
Plutôt, ça nous a bien servi finalement. Je ne sais pas si c'est le fait que les critiques n'aient pas d'emprise, mais on respecte totalement le travail des critiques, même des mauvaises, jusqu'au point de l'intégrer dans notre travail. Donc c'était amusant. Et puis c'est peut-être un nom qui sonnait bien en anglais aussi. Au final, même si c'était vraiment un hasard et une décision un peu spontanée et de dernière minute de choisir ce nom.
Est-ce qu'à cette époque, vous êtes inspiré par d'autres groupes existants ?
À cette époque, on est inspiré musicalement. On écoute au moment où on faisait ce groupe de rock, on écoute beaucoup de rock anglais et de issu un peu de mouvements noisy pop et de ce rock assez mélodique avec beaucoup de travail sur les harmonies, mais beaucoup de bruit et de distorsion aussi à l'époque. Et c'est vrai qu'on va voir beaucoup de concerts. Et on se rend compte que le public est complètement abattu, ne bouge pas du tout. On allait voir des concerts comme des groupes comme Dinosaur Junior ou Teenage Fan Club ou des groupes de cette époque-là et avec des concerts qui étaient vraiment super bien, mais une énergie qui n'était pas celle qui nous plaisait en tant qu'énergie collective. Et à 18 ans, la première fois qu'on va dans une rave, c'était sur le toit de Beaubourg, la première rave à laquelle on est allé. Et on découvre une musique différente et on découvre en plus, je pense, une énergie avec un public et des gens qui dansent sur des morceaux qu'ils ne connaissent pas et avec quelque chose de nouveau qui est en train de se passer au niveau de la canalisation de cette énergie. Et d'une scène presque à l'époque, hein, faut replacer la musique électronique dans son contexte qui est alternative et totalement underground et qui est pas de la musique qu'on entend à la radio et on se dit ah c'est intéressant, il y a un courant et il y a peut-être quelque chose à faire en utilisant ce moyen d'expression dans la musique. Et c'est vrai que un de nos albums fétiche de ces années-là, c'est le disque d'un groupe qui était un groupe de rock avant, qui s'appelait Primal Scream, qui sort un disque qui s'appelle Screamadelica, qui est produit par un DJ producteur qui s'appelle Andrew Weatherall, et qui est finalement Weatherall, qui est le premier à cette époque à prendre des musiciens de rock, un groupe de rock, et à travailler avec des échantillonneurs et à faire ce passage un peu stylistique où finalement c'est de la musique et c'est des et mais on va remplacer la batterie par une boîte à rythme, où on va utiliser un batteur, mais on va l'échantillonner, comme on a pu le voir même après dans des albums de rock de Nirvana, l'album du Nirvana Nevermind, où toutes les batteries elles sont échantillonnées et bouclées. Donc, mais c'est vrai que à cette époque, c'est aussi son travail, parce que c'était un peu un lien et ça faisait une connexion entre la musique qu'on pouvait écouter avant de découvrir la musique électronique, et le fait qu'il y avait comme ça une connexion entre les deux et que c'était pas totalement déconnecté. Donc ce disque-là, Screamadelica, était un peu un premier pont entre ces deux genres musicaux, et on s'est dit ensuite que l'idée de commencer à faire de la musique électronique, c'était de rajouter des connexions et rajouter des ponts entre ces genres musicaux. C'était plus pas de dire que le rock c'était pas bien et que la musique électronique c'était le futur, plus que d'essayer de joindre les deux. Et c'est difficile encore une fois d'en parler aujourd'hui parce que c'est totalement un discours où aujourd'hui on est vraiment dans la il y a plus du tout de chapelle et tout le monde écoute de toutes les musiques et tout ça a été totalement intégré par les 20 ans, presque 20 ans après, même plus, à peu près 20 ans après. En 1900, là on parle de 1990 ou 91, on était encore peut-être quelques années après les chapelles de la fin des années 70 et du début des années 80, où il y avait le rock, le hard rock, le disco, le punk, le ska, et qu'il y avait très très peu de perméabilité entre les genres musicaux et les publics aussi. Et c'est quelque chose qui nous avait toujours énervé, cette idée de dire bon, on adore Brahms, on adore les Dead Kennedys, on adore Sex Pistols et on adore Balavoine. Et aujourd'hui, les gens peuvent se définir de cette façon-là avec cet éclectisme, mais c'était quelque chose de très rare. Il y avait peut-être plus de questions qu'on pouvait se poser sur le bon goût, sur le mauvais goût et sur la façon dont on devait appartenir à une famille musicale.
Alors on parle de vous comme les dignes descendants de ce que l'on appelait autrefois la Cold Wave et qui était représentée par le groupe allemand Kraftwerk. Alors que pensez-vous de ce rapprochement?
La Cold Wave, je ne sais pas. Kraftwerk, disons que c'est... On peut être très honoré d'être comparé ou à des descendants de Kraftwerk, mais je pense qu'on... Peut-être qu'on partage avec Kraftwerk l'idée d'un projet musical audiovisuel, esthétique et global et assez conceptuel en même temps, tout en étant accessible et de la pop musique aussi. Donc avec une vraie construction d'un univers esthétique, musical. Et visuel et graphique qui emprunte ou qui s'inspire de tout un collage d'idées préexistantes, mais où la combinaison en fait un projet pas narratif, mais vraiment avec la création d'un micro-univers musical et esthétique. Donc après, il y a la connexion avec les robots aussi, donc c'est quelque chose relativement compréhensible.
Il y a quelque chose qui m'a amusée, c'était dans un article de Rock and Folk il y a quelques années, qui citait les 40 pires groupes de rock qui ont pu exister. Vous avez lu cet article ?
Je me souviens plus.
Alors, je vais vous citer quelques groupes qu'il cite en disant que c'était les pires qu'on pouvait trouver, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, il y a Pink Floyd, ouais. Shame 69, uh-huh. U2, uh-huh. Genesis, Yes, Simple Minds, Queen, Eagles, The Cranberries, Chicago, Kiss, Supertramp, Scorpion, Police, Statu Quo, Tears for Fears, UB40, Ultravox, Dire Straits, Garbage, Toto, Pearl Jam et Daft Punk.
Bon, et on est très honoré d'être dans, liste comme ça. On en revient vraiment à cette idée de dichotomie entre le bon goût et le mauvais goût. Et ça, c'est vrai que je pense que c'est une liste qui est évidemment... Quoique, à la rigueur, ils auraient pu... Ça m'étonne presque que Pink Floyd soit dessus, parce qu'on pourrait... Il y a beaucoup de gens qui font la différence entre les premiers albums de Pink Floyd avant le départ de Syd Barrett et qui sont vraiment considérés comme des albums très importants de rock. Mais le reste, c'est vrai que c'est une liste de, où il y a comme ça une aura douteuse de est-ce que c'est vraiment du bon goût. Et c'est souvent des groupes qui ont finalement eu beaucoup de reconnaissance à un moment de leur carrière avec comme ça cette idée ou ce cliché du sell-out en anglais qui est les groupes qui signent un peu un pacte avec le diable pour devenir connus et qui commenceraient à faire de la mauvaise musique ou de la musique plus facile, plus accessible délibérément. Mais on est très content d'être dans cette liste, bien sûr.
Parce que c'est quand même les grands groupes qui existent, qui ont existé et qu'on célèbre même maintenant. Enfin,
il y en a d'autres. Hein. Mais c'est vrai que c'est des groupes.
Mais c'est pas craché aussi sur ce qui a pu exister dans les années 80 ou 70. Parce qu'à cette époque-là, on se posait pas la question si ils étaient là, on les écoutait et on en tirait un bonheur certain.
Oui, mais c'est. Je pense que c'est des groupes... En fait, c'est normal pour une publication comme Rock and Folk, c'est des groupes de rock qui sont souvent devenus des groupes de pop. Et y a toujours eu cette... Mais bon, ça, c'est vraiment une question qui intéresse beaucoup plus peut-être les critiques que les auditeurs aussi, ou que les lecteurs, de se dire, voilà, quelle est la différence entre vraiment le rock et la pop. Tout ça, c'est des étiquettes. Et c'est vrai, au final... Ce qui est important, c'est la musique, les émotions qu'elle peut procurer et puis le rapport qu'on peut avoir avec.
Justement, vous, votre groupe, on peut pas le mettre dans une, on peut pas lui donner une étiquette particulière, finalement.
Ah bah, on lui donne l'étiquette. Nous, on n'apprécie pas vraiment ou on passe pas vraiment de temps à essayer de le mettre dans une case, mais les critiques et les journalistes peuvent tout à fait lui mettre l'étiquette qui veulent. C'est quelque chose de peut-être plus compliqué. C'est principalement de la musique électronique, peut-être, ou de la musique assistée par ordinateur, parce qu'il y a une vraie... Et c'est peut-être ce qu'on retrouve aussi avec Kraftwerk, comme on en parlait. Je pense qu'on a la spécificité de notre musique et de notre travail, c'est qu'il y a une vraie interaction entre la musique et la technologie, en fait. Où la technologie, la technique est d'une certaine façon membre du groupe à part entière et presque un membre invisible, mais il y a cette idée d'apprivoiser la technologie et des nouvelles technologies aussi, mais finalement ça a toujours été le cas souvent dans l'histoire de l'art, la recherche des créateurs avec les nouvelles techniques ou qu'est-ce qui était possible de faire. Contrairement au rock, finalement, ou qui est d'une certaine façon une forme de musique assez traditionnelle, mais presque folklorique, en fait, où on se dit, voilà, dans les années 50, on invente une formation avec deux guitares électriques, une basse et une batterie, et ça reste du folklore pendant 50 ou 60 ans, et ça le devient avec comme des formations de musique ancestrale, comme ça, avec des violons ou... une fanfare ou des choses comme ça. Et à côté de ça, il y a toujours eu un travail aussi de certains artistes sans jugement de valeur. Hein. C'est vraiment un autre type de travail où on essaye avec la technologie ou à l'époque la technique ou même avant les outils de voir qu'est-ce qu'on peut faire, quel outil on peut utiliser, comment on peut avancer beaucoup plus dans je dirais pas dans le progrès, mais dans une idée d'une interaction avec ces outils et cette technologie. Et à côté, on peut avoir comme ça ce folklore qui ne se pose pas ces questions-là et qui a bien raison de ne pas se les poser. Et c'est presque finalement une vocation différente, je pense.
Sur Internet, on peut regarder une vidéo où l'on vous voit en train de mixer un morceau lors d'une soirée à Los Angeles. Alors, vous avez l'air très inspiré, très concentré, et je me posais la question sur la part d'improvisation dans les concerts. Y en a-t-il une ?
Ça dépend des concerts et des projets qu'on a sur lesquels on a travaillé. Je dirais que l'improvisation, elle peut être, c'est un concept qui peut être important à des moments. Quand on faisait nos concerts dans les années 90, on embrassait complètement cette idée d'improvisation avec des versions qui pouvaient durer 5, 10, 15 minutes, s'étaler des morceaux, puis une version d'un soir sur l'autre, on avait 50 ou 60 machines sur scène, tout un studio, et y avait un caractère presque expérimental de cette approche-là, complètement différent de la tournée qu'on a pu faire 10 ans plus tard, avec un studio qui était pratiquement entièrement modélisé dans des ordinateurs, et un travail où on était beaucoup plus proche de la performance totalement chorégraphiée, de la chorégraphie de la musique qu'on peut avoir dans n'importe quel type de... ou dans la musique classique, ou dans des choses où on n'est pas du tout dans l'improvisation, alors que l'autre, ça se rapprocherait plus du jazz ou de quelque chose qui est beaucoup plus libre, en fait. Et en fait, les deux concepts, ou celui de la chorégraphie millimétrée en essayant de recréer tous les soirs la même chose, ou celui de l'improvisation, sont valides et sont valables en fonction du spectacle ou du projet sur lequel on travaille.
Est-ce que vous arrivez à avoir des partitions ou des grilles? Comment vous travaillez à...
Non, enfin, aujourd'hui, il y a différentes manières de finalement de noter la musique. Les partitions traditionnelles, ça a été une façon de le faire et un langage pendant très longtemps, même finalement avant les techniques d'enregistrement, qui était une manière de trouver un moyen de garder la musique comme ça, quand on passe de l'oral à l'écrit. Mais moi, je lis la musique pas très bien. Et après, on apprend plus notre texte musical comme un comédien pourrait apprendre sa pièce.
Alors, la particularité du groupe est d'être toujours masqué, ou plutôt casqué, suivant ce qu'on appelle un concept dit d'invisibilité. À quoi cela tient ?
Ça, c'est difficile de répondre, mais je pense que spontanément, on avait une attitude assez radicale quand on a commencé le groupe et quand on a eu l'occasion de pouvoir sortir un disque sur une maison de disques qu'il distribuerait dans la grande distribution et avec une certaine promotion à l'époque, et l'idée de jouer conceptuellement avec l'idée avec l'anonymat, et avec on n'était pas du tout les premiers à le faire et pas les derniers, dans cette idée là elle est au départ une idée pratique, une idée presque idéologique, ou mais encore une fois, il s'agit jamais de dire voilà le star system c'est nul, en fait l'anonymat c'est le règne de l'anonymat qui est important. Nous, on essaye à chaque fois d'élargir une pensée plus que de remplacer la pensée précédente par une nouvelle. Donc, c'est vraiment dans la coexistence de toutes les formes de présentation artistique qu'on revendiquait, en fait. Et c'est vrai que cette idée, c'est de se dire, voilà, on peut créer des choses aujourd'hui sans forcément suivre les règles. Et les règles de promotion, les règles de présentation, les normes selon lesquelles on devient un visage sur un produit, et on peut créer des choses différentes. Et finalement, peut-être même plus que le concept de l'anonymat, c'est ensuite le concept de la création, voilà, de personnages qui sont entre la fiction et la réalité, et d'un univers esthétique et d'un mystère autour de ça qui finalement devient plus... peut-être plus intéressant, sûrement plus intéressant que faire les choses à visage découvert, en fait.
Pour le... Parce que vous avez un physique quand même assez premier de la classe, look un peu scientifique, directeur de recherche.
Ouais, alors, mon physique peu... a changé. Mon physique a changé beaucoup. Ça fait 20 ans qu'on fait ça, donc on évolue. Ouais. Bien sûr, très bien. Mais c'est. Je pense que il y avait peut-être 2-3 raisons pour lesquelles on a commencé à se présenter, à faire des choses comme ça. Aujourd'hui, il y en a des centaines de raisons, donc on pourrait faire une liste et de bonnes raisons, je pense. Après, ce qui était intéressant, c'était la validation par le public de cette démarche, en fait, et qui peut devenir effectivement un moment un peu idéologique dans l'idéologie et de l'esthétique artistique. Il ne s'agit pas de politique, mais de dire, voilà, les gens peuvent se reconnaître dans cette idée qui va un peu à l'encontre de la mouvance d'une reconnaissance physique recherchée par tout le monde ou une reconnaissance physique soi-disant recherchée par tout le monde, véhiculée par les médias, comme on peut le voir maintenant encore plus qu'il y a 20 ans finalement, où chacun cherche son quart d'heure de célébrité, et souvent on a pu le chercher nous aussi, mais souvent on le relie forcément à une reconnaissance physique. Pour aujourd'hui, assez superficiel et superflu finalement.
Alors on dit de vous également que vous êtes une des rares vedettes internationales à pouvoir aller à la FNAC sans se faire reconnaître.
Sans aucun jugement de valeur, c'est peut-être effectivement peut-être que ou à prendre le métro ou à après c'est la définition de vedette qu'il faut sur laquelle il faut se pencher, mais c'est vrai que oui, et finalement on en est très content, mais c'est peut-être cette normalisation et ce formatage, c'est peut-être un peu triste, parce que on peut vouloir à un moment donné une reconnaissance ou sur son travail, ou peut-être des fois sur soi-même, une reconnaissance physique par rapport à des choses de la petite enfance ou qu'on a envie de prouver, etc. Mais la célébrité coupe vraiment les gens de la vie. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement un cliché, mais c'est vrai. Et on a l'impression que et c'est pas forcément un prix à payer non plus. On peut tout à fait se organiser sa vie et les choses différemment. Mais bon, je pense qu'il commence à... C'est aussi un discours aujourd'hui qui est relativement accepté. C'est vrai que la première fois, il y a 15 ans, quand on a dit à notre maison de disques, voilà, on va pas se montrer, on va mettre des masques ou se cacher pour des photos de presse, ils nous ont dit mais c'est impossible de faire ça. Aujourd'hui, n'importe quelle rédaction est presque habituée, de la même façon que, bon, il n'y a plus beaucoup de vidéoclips, mais à l'époque il y en avait encore. On a fait partie des premiers clips vidéo sans l'artiste lui-même dans le clip. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est totalement commun et difficile à imaginer autrement.
Est-ce que ce fait d'être anonyme, ça vous a permis d'aller vous frotter un peu au public? Je pense à un truc après un concert, à vous changer vite fait, à aller à la sortie d'une salle un peu anonymement, puisque bon, peut-être que les fans, ils avaient accès,
bien sûr,
pas trop à l'époque, non, parce qu'il n'y avait pas encore YouTube, mais...
On se frotte à la vie, et on est, je pense qu'on a des vies, on vit certes énormément de choses exceptionnelles, mais on a des vies quotidiennes beaucoup plus normales et beaucoup plus similaires à celles de notre public que les vies des artistes qui peuvent avoir une célébrité équivalente à la nôtre, mais qui seraient attachées à une reconnaissance physique. Et la chose la plus intéressante, finalement, c'est l'absence d'indicateur d'un statut dans la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une configuration, ni une starification, ni même dans la mémorisation quotidienne permanente du statut de notre statut, de notre travail, de ce qu'on fait. Et ça nous permet vraiment de redémarrer à zéro ou d'oublier qu'est-ce qu'on fait et qui on est, et de pas avoir la boulangère pour nous le rappeler ou la pharmacienne ou quelqu'un dans la rue pour nous le rappeler. Et ça, c'est quelque chose de très agréable.
Pourtant, on a l'impression, quand on entend certaines critiques, que vous êtes arrivé à un niveau vraiment de star. Alors, j'en parle parce qu'il y a Tom Riley, qui est le pont d'Activision, qui parle de vous, et qui dit en ces termes, « Ils sont célèbres pour être extrêmement sélectifs quant aux projets dans lesquels ils s'impliquent, et le fait de travailler est une véritable opportunité. » Ça veut dire que vous êtes arrivé à un tel niveau que pour pouvoir travailler avec vous, c'est quasiment, ça tient presque de la...
Ouais, mais
du
ça,
miracle.
C'est des... Non, mais ça, c'est peut-être des déclarations un peu exagérées. Mais non, mais ce qui est intéressant.
Je vais vous gêner encore plus.
Ce qui est intéressant. Non, ce qui est intéressant, on pourrait peut-être faire une comparaison avec certains écrivains ou certains réalisateurs où il y a une réelle séparation physique entre la personne qu'ils sont et le travail et ce qu'ils peuvent faire. Et c'est vrai que d'une certaine façon. Les deux robots, la virtualité de ce groupe dont on est les créateurs, les acteurs, les marionnettistes, a un parcours aujourd'hui effectivement relativement exceptionnel et important, mais on le sépare totalement de notre personne, en fait. Et les membres du groupe, dans ce sens-là, les robots font partie comme ça, de cette virtualité et de l'œuvre. De l'œuvre elle-même, mais c'est pas nous. Et on a juste vraiment l'impression d'être aux commandes. On fait souvent le rapport finalement avec le magicien d'Oz, où on a ce petit bonhomme dans la cabine qui touche. Et il y a comme ça ce focus sur le magicien d'Oz. Quand on a fait nos tournées, la dernière tournée, qui a 50 ou 60 000 personnes devant la pyramide de lumière avec deux robots, c'est nous, on est juste les comme le petit bonhomme qui actionne comme ça ses manettes. Et effectivement, on a cette liberté, on a ce contrôle-là. Et il y a une vraie différence entre aujourd'hui l'importance, le travail qu'on a pu faire, peut avoir pour une partie de la population dans le monde, les jeunes, et ce que ça peut représenter, et notre personne, où effectivement on fait les choses anonymes, où il y a une réelle virtualité dans la relation effectivement qu'on peut avoir avec notre public, et elle est presque, il y a une vraie abstraction, et dans ce sens-là on n'arrive pas vraiment à l'appréhender, et on pourrait nous comparer à un auteur. Il y en a qui veulent pas se faire prendre en photo, qui sont reclus dans leur solitude, plus que reclus dans leur vie quotidienne normale avec leurs amis, leurs voisins, et qui ne se mettent pas sur le devant de la scène.
Vous parliez d'auteurs et autres. Moi, je pensais à David Weber, qui a écrit des ouvrages de science-fiction de Honor Harrington, qui crée un monde excessivement évolué et excessivement précis dans la science-fiction. Je me suis posé la question, vous, en tant que groupe, est-ce que la musique que vous faites actuellement, c'est ce que vous imaginiez au niveau de la musique du futur quand vous aviez 13-14 ans ?
Non, je pense que on a toujours vécu beaucoup dans le présent et on vit dans le présent, donc c'est vrai qu'on n'a pas vraiment eu de réflexion sur le futur et sur la science-fiction, à part l'idée de aujourd'hui de se dire voilà, on est dans la science-fiction, ou on est dans le futur déjà, et le futur c'est pas dans 5 ans ou c'est pas dans 10 ans, c'est maintenant. Mais il y a 20 ans, on se posait pas cette question-là. Mais c'est vrai que pour revenir au concert qu'on a fait il y a deux ans et trois ans, d'être comme ça, de faire des spectacles dans le désert avec une pyramide de lumière et des dizaines de milliers de gens autour et des robots dessus, et pas des humains justement, mais c'est presque comme, on est presque dans un film de science-fiction ou dans un jeu de rôle comme ça, où le public sont les acteurs eux-mêmes d'une sorte de cérémonial futuriste et technologique, mais qui peut avoir lieu aujourd'hui et qui est chorégraphié de la même façon que n'importe quel cérémonial peut l'avoir été. Donc il y a cette idée de jouer avec les concepts de science-fiction qu'on peut avoir aujourd'hui, mais finalement aujourd'hui on prend son téléphone portable tactile et on le regarde, on est aussi dans la science-fiction comme ça. Et c'est vrai que encore plus que encore plus loin que ce qu'on pouvait imaginer il y a 20 ans ou 30 ans peut-être. Mais on se posait pas vraiment la question à 13 ans, je pense. On est relativement beaucoup plus dans le présent et dans l'imagination et la création de qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui plutôt que qu'est-ce qu'on va faire dans 5 ans ou dans 10 ans. Ça reste une inconnue qu'on n'a pas vraiment envie de mettre en avant.
Nous terminons cette première partie en compagnie de Thomas Bangalter et de Christophe Bouillot. Nous nous retrouvons un petit peu plus tard. Je vous remercie tous les deux. Autre radio, autre culture. Au revoir. Autre radio, autre culture.